Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le mardi 24 mai 2022 et il fait plutôt beau dans le Beaujolais. On a quelques petits nuages dans le ciel, mais quand même plutôt du soleil et des températures autour de 21 degrés. Une météo qui devrait se maintenir comme ça toute la semaine. Au programme de notre émission, on va retrouver le coach en milieu d'heure pour des conseils en tout genre. C'est la surprise à chaque fois. On va retrouver en fin d'émission notre libraire pour quelques conseils littéraires. Mais avant ça, on va parler cinéma aujourd'hui, puisque nous avons avec nous en studio Marie Rubens et Maë Roudet-Rubens, mère et fille, qui sont venues. Et aujourd'hui, elles sont là en tant que membres de l'association Obelus Productions, qui réalise des productions audiovisuelles, je crois principalement des fictions, des courts-métrages dans le Beaujolais, et qui sont disponibles sur Internet. Ils sont très jeunes, très prometteurs. On va parler donc d'Obelus Productions, et on va aussi parler d'un film qui est sorti au cinéma le 11 mai, un film de Mona Achache qui s'appelle Cœur vaillant, avec à l'affiche, c'est écrit sur Allociné, Camille Cotin, et juste derrière Maë Roudet-Rubens. Alors Camille Cotin est excusée, elle est probablement au Festival de Cannes, mais on a quand même Maë qui est avec nous en studio. On va pouvoir parler de ce film qui se déroule donc durant la Seconde Guerre mondiale et qui raconte l'histoire de 6 enfants juifs cachés dans les jardins du château de Chambord. On va parler Cinoche aujourd'hui avec un grand C, mais avant ça, notre émission commence comme d'habitude en musique. On se met dans l'ambiance, voici Miss Charlou de Dick Dale. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous. Calade, un morceau de Dick Dale et qui me fait fortement penser à Pulp Fiction parce que c'est la musique.
Ensemble sur Calade.
Voilà, on est dans Ensemble sur Calade et aujourd'hui avec nous en studio, on retrouve Maë Roudet-Rubens et Marie Rubens. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et merci d'être venu nous voir en studio. On va parler de Obelus Productions. Alors moi je l'ai présenté comme une association de production audiovisuelle. Ça résume bien.
Eh bah, ben oui, c'est exactement ça. C'est une association, donc on est assez jeune dans cette association. Elle a été créée, je crois, il y a une...
En 2019, moi je vois les premières...
Exactement, c'est ça.
Les prémices.
Donc voilà, dans l'association, on a de 16 à 22 ans, en fait.
Le doyen à 22 ans.
C'est ça.
Très bien.
Et donc, c'est une association qui a été créée autour de cette passion du cinéma au lycée à la base.
Ouais.
Donc, on est actuellement 7 au CA.
D'accord.
Et on a des membres qu'on accueille chaque année et qui ont des exclusivités sur les sorties de nos courts-métrages, sur les tournages. Enfin, on essaye de faire un peu interagir avec nous, les membres.
D'accord. Il y a le CA d'un côté qui, j'imagine, c'est ceux qui sont à l'origine des productions audiovisuelles.
Ouais, c'est ça.
Et les membres de l'association qui profitent, qui peuvent voir les films en avant-première, ce genre de choses, c'est ça ?
Ouais, on est en train de mettre tout ça en place.
Ça a commencé comment, du coup, l'idée c'est au lycée, du coup, c'est une bande de potes à la base ?
Oui, c'est ça. En fait, c'est Robin Bourlet qui donc fait partie du CA et qui fait les réalisations la plupart du temps de l'association, qui a créé un club vidéo à Montgré.
Okay.
Et donc, c'est là où ils se sont rencontrés, en gros, et ils ont décidé de créer cette association. Donc ouais, ça part du collège et du lycée. Donc c'est assez... c'est assez jeune pour créer une association, mais
ouais.
Du coup, ils ont tenu bon et elle s'agrandit.
Et du coup, il y a un cadre, il y a un conseil d'administration, voilà, de ce côté-là. Et pour faire du cinéma, il faut être organisé.
Ouais, c'est ça. Ça s'organise souvent en réunion. On essaye de faire des grosses réunions pour tout ce qui est organisation de l'association. Et ensuite, par projet, on doit avoir une ou deux grosses réunions par projet. Et ensuite, par secteur, un peu l'image, la production et la réalisation qui se coordonnent. Et donc, souvent, on définit des dates de tournage.
Ouais.
Et tout s'organise. Je vais dire à peu près autour de un mois de pré-production, même si c'est un peu court, un mois. Souvent, on se débrouille comme ça parce que niveau disponibilité, on n'est pas tous sur Lyon. Il y a Maxence Lobel qui est deuxième assistant chef opérateur, par exemple, qui est à Orléans.
Ouais, il y a des postes très sérieux.
Ouais, ouais. Oui, c'est des postes définis, en fait.
Ouais, ouais. Et un tournage... Vous, dans les productions de ce que j'ai pu voir, que vous avez posté sur YouTube, c'est des courts-métrages d'une dizaine de minutes en général. Il y en a plusieurs qu'on peut voir. Et pour atteindre ce résultat d'un court-métrage d'une dizaine de minutes, ça représente... Vous avez parlé déjà d'une production de un mois. Le temps du tournage, par exemple, ça se passe comment ?
En fait, ça dépend parce que souvent, on écrit... par exemple, on a écrit un film pour le Nikon Festival,
ouais.
Donc Robin l'a écrit. Et dans ces moments-là, je pense que pour 10 minutes de film, on est entre 3 et 5 jours de tournage à peu près.
Ouais.
Tout dépend parce que, par exemple, on fait aussi des 48 heures, donc oui. Chair humaine et Les Désaccordés, qui sont deux 48 heures qu'on a fait. Là, pour le coup, on avait 48 heures donc, pour écrire,
tourner
monter. Et monter.
Ouais,
voilà. Et donc, en fait, tout dépend du rythme de travail.
Ouais.
Donc, voilà.
Là, c'est des tournages intenses, on ne dort pas.
Ouais, pour le coup, ouais, c'est ça.
Et donc, vous avez parlé des rôles chef opérateur, etc. Alors, c'est des termes techniques que je ne maîtrise pas forcément, mais chacun dans l'association a sa place, ou est-ce que ça tourne ? Et des fois, il y en a qui disent tiens, j'aimerais bien être monteur une fois pour essayer. Ça se passe comment ?
En fait, comme à la base, on est quand même une troupe de potes, quoi. On s'entend super bien. Moi, par exemple, je sais que j'ai commencé à l'assistana réalisation,
ouais.
Sur un gros projet qu'on a qui va sortir bientôt qui s'appelle Dessine-moi une planète. Et ouais. En fait, pendant le projet, je me suis intéressée à la caméra. Et donc, je suis devenue assistante chef opérateur avec okay. Lucien Peignet qui est à la photographie sur tous les courts-métrages de Bellus. Et donc voilà, en fait, c'est assez libre. On a tous des rôles, en fait.
Des rôles.
Ouais, c'est ça, on a des rôles, mais c'est assez libre dans le sens où si quelqu'un veut apprendre le montage, il n'y a pas de souci sur un des tournages. En post-production, Lucien va prendre quelqu'un et va lui apprendre comment monter. Voilà, okay. C'est ça, c'est assez libre.
Et justement, apprendre comment est-ce que ça s'apprend ? Parce que c'est technique, on ne s'improvise pas caméraman, monteur, on utilise des logiciels hyper compliqués. Vous apprenez sur le tas, comment ça s'est passé l'apprentissage ?
Bah, l'apprentissage, en fait, c'est Robin et Lucien qui étaient à... qui sont déjà deux grands passionnés, ouais. Et ils avaient l'option cinéma, et ils ont encore pour Lucien, à Bel Air, au lycée Bel Air à Tarare.
D'accord, donc il y a des cours...
voilà, c'est ça, il y a une option, avec Jérémy Barré, qui est un professeur exceptionnel de cinéma, et qui nous aide beaucoup dans nos projets, qui nous prend un peu sous son aile, et donc ça nous aide vraiment beaucoup. Donc il y a une grosse formation qui est faite déjà au lycée. Et ensuite, bah, par exemple, moi, je sais que j'apprends pareil. Oui, c'est ça, j'apprends sur le tas ou j'essaye de prendre un peu des cours de théorie, mais c'est vraiment une passion à la base, ouais, qu'on développe en tournage, quoi.
D'accord. Et vous êtes comédienne principalement ?
Oui, à la base, je suis comédienne.
Ouais. Et ça s'apprend, parce que ça aussi, j'imagine qu'il y a de la technique, alors c'est pas pareil qu'utiliser un outil comme une caméra ou quoi, mais qu'il faut avoir des réflexes sur un tournage, etc. Quand on arrive sur le premier tournage, peut-être avec plein d'enthousiasme, on se rend compte que ça demande une certaine structure, etc. Ça s'apprend aussi ?
Ouais, c'est sûr. Bah, après, moi, j'ai commencé avec le théâtre, ouais, mais ma mère, qui va peut-être pouvoir mieux vous en parler, parce que pour le coup, on l'a vraiment appelée pour un 48 heures. Elle n'était pas au courant. Ouais. Elle n'était pas forcément au courant. Et donc, elle a vraiment appris sur le tas aussi. Donc,
Dans les désaccordés.
C'est ça, tout à fait.
Ils vous ont fait jouer un rôle assez étrange.
Tout à fait, exactement. Et j'ai joué à deux, heureusement. Je n'étais pas toute seule. Et le duo a super bien marché. Il m'a mis en confiance totale. Et du coup, ça s'est passé super bien. Le Mathieu Capella, avec qui je joue, et l'équipe technique autour, c'était un vrai bonheur. C'était... assez exceptionnel, je m'en rappellerai, je crois, toute ma vie de ce premier tournage où j'avais un rôle important quand même.
Oui, il y a deux personnages dans
j'ai appris ça à 3h du mat. J'avais une liste qu'on m'avait envoyée, il faut bien que tu prennes ci, ça, là et là. À 3h, ok, je dormais pas. Et puis finalement, on est à 6h du mat, on s'est retrouvés sur le site, sur le lieu du tournage, et j'ai découvert le rôle et j'ai appris à.
Une supporter professionnelle.
Tout à fait. Et je suis supporter professionnel de Obelus Productions Power Love.
C'est-à-dire que vous apprenez les chants de stade et vous êtes appelé à aller sur des stades pour... c'est ça votre rôle ?
C'est ça, exactement, pour boucher les trous dans les enterrements, les stades, les concerts, tout ce qui a besoin de...
De supporters.
Voilà.
Les fictions, les quelques-unes que j'ai vues, il y a des scénarios souvent très imaginatifs, originaux. Ça se passe comment ? La création, à la toute base, c'est en groupe ? C'est l'idée de quelqu'un qui va être développé par le groupe ? Ça marche comment ?
En fait, c'est Robin qui initialement a les idées de scénario. Donc, soit c'est quelque chose qu'on fait dans le cadre d'un festival comme le Nikon ou les 48 heures, ou alors c'est une volonté de Robin. En fait, c'est Robin qui écrit les scénarios, mais c'est très ouvert, c'est pareil. C'est-à-dire que s'il y en a un d'entre nous qui décide d'écrire, ouais, il n'y a pas de souci, on va produire. Mais donc en fait, c'est surtout Robin qui écrit pour le moment. Et il écrit une première version, et nous, en tant que CA, on valide ou non son idée pour la produire ou pas avec l'association, en fait.
Ok.
Puis il y a eu une réalisation avec Léo Riel.
Oui, sur Dessine-moi une planète. Ouais. Voilà, c'est un projet initial de Léo Riel qui s'est associé avec Robin en cours de projet, en fait. Et d'accord, c'est là où on a décidé de le produire avec Obelus.
Et là, il y a un futur projet avec juste Léo Riel sur Les Merveilles, qui va se tourner cet été. Et il y a eu un projet qui a tourné en février. C'était un projet de Robin qui s'appelle Les Pages Blanches, qui va sortir fin mai, un truc comme ça, début juin ou juin, je ne sais plus.
Et Dessine-moi une planète, c'est un gros projet, ça sort bientôt ?
Oui. En fait, c'était prévu initialement pour un court-métrage de 20-30 minutes. Et j'adore cette phrase, hein, mais sans faire exprès, on a fait un long métrage.
Incroyable.
C'est-à-dire qu'on avait 15 jours de tournage, ouais, répartis entre Paris et Choc, qui est une ville dans le nord de la France.
Qui choque tout.
Exactement. Et donc, voilà, on avait 15 jours de tournage. Et c'était vraiment un tournage très intense pour le coup, parce que déjà, c'était tout était bénévole. Ouais. On avait des lieux qui étaient prêtés pour loger. Enfin, voilà.
Il fallait pas perdre une minute. Il fallait
exactement
être efficace.
Dormait sous tente.
Ouais, c'est ça. Donc c'était très sportif. Et en fait, on s'attendait pas du tout à avoir un résultat tel. Mais finalement, voilà, le film va durer 1h10.
D'accord. Donc c'est un long métrage.
Une planète.
Ouais.
Et ça sort.
Bientôt. Sort. Moi, là, actuellement, j'ai pas la date, mais c'est en.
À peu près, en fin 2022, on pourrait le voir.
Oui, je pense. Oui.
Très bien. Bon, affaire à suivre. Obelus Prod, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube pour voir votre travail. Et puis, il y a même un site internet qui s'appelle obelusproduction.fr, tout attaché. Vous avez parlé de Léo Riel. Mm-mm. Vous partagez l'affiche d'un film avec lui qui s'appelle Cœur Vaillant et qui est sorti le 11 mai dernier avec dans le rôle principal Camille Cotin, enfin la tête d'affiche en tout cas, film de Mona Achache. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette grande aventure de faire un grand long métrage qui sort au cinéma?
C'est beaucoup de chance déjà, parce que moi j'ai commencé à postuler à des castings quand j'avais, je pense début confinement, donc début 2020, parce que j'ai toujours voulu en fait faire du cinéma. C'est vraiment quelque chose qui m'attirait depuis que j'avais 7 ans à peu près, et donc j'ai décidé de prendre ça en main et essayer d'aller plus loin, donc avec l'aide de ma mère et de mon père, que je remercie de me suivre. Ouais. C'est grâce à eux. Mais, donc voilà, j'ai commencé à postuler à des castings sur un site qui s'appelle figurant.com et qui a l'initiative du site. Bah, en fait, c'était un site de figurants.
Pour faire figurant.
Voilà.
Et là, en fait, maintenant, c'est le deuxième sur le site Allociné. Moi, j'ai été impressionné. On m'a dit, elle est dans un film. Je suis allé voir. Et effectivement, il y a Camille Cotin et à côté, il y a vous. C'est impressionnant.
Oui, mais du coup, j'ai passé beaucoup de casting. Enfin, j'ai envoyé beaucoup de casting. Ouais. Et en fait, j'ai été retenue sur celui-là. Donc, j'ai dû faire une vidéo premièrement, ensuite passer un callback à Paris. Okay. Et j'avais un deuxième callback qui était prévu. Bon, j'ai eu des complications, je n'ai pas pu y aller.
On vous rappelle, il faut revenir faire des essais, c'est ça?
Exactement. Okay. Donc là, pour le coup, comme la production était à Paris, donc il a fallu qu'on se déplace. Et c'était en plein confinement, donc on a eu une autorisation spéciale.
C'était un convoi exceptionnel, on avait l'autoroute pour nous.
C'est ça.
Merci Mona Achache pour cette expérience incroyable. Mm-hmm. Et du début jusqu'à la fin.
Et le tournage, justement.
Qui n'est pas fini.
Le film, il y a six enfants, si je ne dis pas de bêtises. On est pendant la Seconde Guerre mondiale. Six enfants juifs qui sont cachés par une femme au château de Chambord. Mm-hmm. C'est ça. Et on va suivre leurs péripéties pendant toute cette période. Le tournage, ça s'est passé comment? Parce qu'il y a des enfants très jeunes avec vous.
Normalement, il y a une norme. On a le droit ou pas le droit de faire travailler les enfants un certain nombre d'heures en fait par jour. Et donc par exemple pour les petits, c'était pas la même autorisation d'heures en fait.
Suivant l'âge, on a le droit de tourner plus ou moins d'heures.
C'est ça.
D'accord. Et donc ça compliquait la tâche, j'imagine.
Bah oui. Après les productions, elles ont l'habitude. On avait une super production et par exemple, en fait c'est le troisième assistant réal qui s'appelait Théo Jacotin, ouais, sur le tournage, qui faisait toutes les feuilles de service, donc qui organisait toutes les journées par rapport à ça justement, par rapport aux scènes qu'on avait à tourner. Et donc oui, c'est vrai que ça complique un peu la tâche, mais on s'en est sorti.
Et là le film, il est sorti il y a un peu plus d'une semaine, le 11 mai. Il est à l'affiche du CGR de Villefranche, il est partout en France. Vous êtes allé où voir?
Moi, j'y suis allée pour la sortie à Villefranche le 11 mai, du coup.
Ouais.
Y avait évidemment beaucoup de mes proches qui voulaient le voir parce que j'en ai parlé pendant longtemps. Depuis le tournage jusqu'à la sortie, ça a fait long. Donc oui, j'y suis allée mercredi.
Et alors, se voir sur grand écran, là où on a l'habitude de voir des gens qui nous font rêver, le cinéma, c'est ça? Ça fait bizarre, c'est chouette.
Ouais, ouais, carrément, bah, c'est ouf. Surtout que c'était mon rêve depuis longtemps. Moi, j'avais déjà vu, en fait, il y avait eu une première technique. Donc,
avec toute l'équipe du film,
j'imagine. Ouais, c'est ça, en juin à Paris. Donc, je l'avais déjà vu, et puis plusieurs fois, parce qu'on a fait des avant-premières. Mais c'est sûr que se voir.
Dans une séance normale, où on va acheter son ticket, on fait un peu comme d'habitude. D'habitude, on va voir plein des films, et là, on va se voir soi-même. C'est incroyable.
Ouais, c'est fou, ouais. C'est assez fou.
C'est chouette. La maman, elle en pense quoi?
Ah oh ben oui, c'est incroyable. Hein. C'est un petit peu...
C'est un moment un peu magique,
sans
j'imagine.
Sans voix, oui, ouais. Ça laisse sans voix. C'est magique, oui, c'est ça. Beaucoup d'émotions.
Ouais. On imagine que, on espère que ce parcours va continuer. Il y a d'autres projets peut-être dans les tiroirs, je ne sais pas. En tout cas, on peut vous suivre avec Obelus Productions. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous voir.
Merci à toi, Mathieu.
Maë Roudet Rubens et Marie Rubens. À très bientôt.
Merci, à bientôt. Bonne suite.
Ensemble sur Calade.
Allez, un petit peu de musique. On écoute Hubert Félix Stéphane avec un morceau que j'ai découvert aujourd'hui. Ça s'appelle Court-métrage. Un morceau qui s'appelait Court-métrage et c'était chanté, vous l'aurez probablement reconnu, par Hubert Félix Stéphane.
Ensemble sur Calade.
100.9 Calade.
Et il est l'heure de retrouver le coach tout de suite. Bonjour coach.
Salut gamin.
Bon, vous allez bien?
Ben ça va, dis donc, j'ai un peu la voix qui gratouille, il y a encore des pollens ou quoi? C'est quoi ce bordel?
Ouais, c'est la saison en ce moment, ça va pas très bien. Bon, j'espère que ça va pas vous déranger pour faire votre chronique hebdomadaire.
Non, ça risque juste d'être encore un peu plus rauque que d'habitude.
Très bien.
Alors, sais-tu, gamin, qu'il existe un mot composé de 3 lettres, seulement 3 lettres, qui devient pour certaines et certains difficile à dire et pour d'autres difficile à entendre? Est-ce que tu sais quel est ce mot?
Je cherche, mais je ne trouve pas.
Alors, tu le sais ou tu le sais pas?
Non, c'est non.
Eh ben, bravo.
Yes, j'ai trouvé.
Effectivement, ce mot, c'est non. Je dis qu'il devient difficile à dire ou difficile à entendre, car nous sommes tous passés dans notre petite enfance par une phase où nous avons appris à exprimer ce non de façon verbale ou de façon non verbale. Les enfants qui sont dans cette phase d'apprentissage du non, eh bien, ils découvrent le pouvoir d'opposition et d'affirmation de ce mot. Dire non, c'est exprimer son intérêt propre, ses préférences, ses opinions face à la volonté et au désir d'autrui. Découvrir le pouvoir de dire non, c'est faire l'expérience de son individualité pour l'enfant, c'est découvrir qu'il existe en tant que un, en tant que personne, et vous conviendrez que c'est plutôt une bonne chose, mais louloute, c'est une étape importante du développement de notre esprit.
Ouais, tout à fait.
Seulement, en grandissant, les choses se compliquent. On découvre que parfois, dire non, ce n'est pas aussi facile que de refuser d'aller à la sieste après le repas, même si votre papa vous a promis d'aller au parc après. En grandissant, dire non nous confronte parfois à des réactions désagréables. On découvre que certaines personnes ont de la difficulté à entendre et à accepter qu'on leur dise non. On découvre que dire non peut provoquer des tensions dans la relation à l'autre et que parfois même ça blesse l'autre. En raison de ces réactions, mais aussi en raison des blessures qu'on se traîne parfois depuis l'enfance, comme la peur du rejet ou la peur de l'abandon, en raison aussi des conventions sociales et des pièges de l'engagement qui sont utilisés par les vendeurs à l'éthique douteuse qui s'appelle Ario la manipulation, il devient de plus en plus difficile pour certains et certaines à réussir à assumer de dire non. En disant non, on peut craindre de décevoir ou de blesser l'autre. On peut avoir peur qu'il ou elle se sente rejeté par votre non, en résonance avec notre propre souffrance. Or, vous conviendrez, mes louloutes, mais toi aussi, gamin, qu'il est indispensable de pouvoir dire non quand on ne veut pas ou quand on ne veut pas répondre favorablement ou quand on ne peut pas.
Oui, oui, c'est important. C'est pas toujours facile, je reconnais.
Ah, je te le fais pas dire, gamin. Nous n'avons pas une quantité inépuisable de temps et d'énergie qui nous permet de répondre à toutes les sollicitations. Et je vous l'ai déjà dit, si vous m'avez écouté, qu'il est important de se préserver et de préserver ses ressources. Dire non, c'est parfois se protéger, ou du moins ne pas tirer sur la corde et se mettre en difficulté. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi la difficulté d'entendre et d'accepter qu'on nous dise non. Lorsqu'on demande, on espère toujours une réponse positive. Et être confronté à un refus peut être difficile à vivre. À cause de nos blessures de rejet et d'abandon, comme je l'ai expliqué un peu avant, à cause d'une confusion que nous sommes nombreux et nombreuses à faire. Quand on reçoit un non en réponse à notre demande, nous avons l'impression que ce non exprimé est contre nous en tant que personne. Or, l'autre répond à une demande. Il répond non à notre demande et non à nous. Il faut apprendre à reconnaître cette impression dans notre esprit parce que c'est un piège à con. C'est cette confusion qui alimente nos blessures et notamment la blessure de rejet et qui nous met en difficulté quand on nous dit non. Je commence à bien vous connaître, mes louloutes, et je sais que vous attendez que je vous donne quelques pistes pour savoir comment bien gérer ces moments difficiles. Tout d'abord, pour éviter d'alimenter la confusion lorsque vous devez répondre non à la demande de quelqu'un, faites en sorte de faire comprendre et de préciser dans votre réponse que vous dites non à la demande et pas à la personne. Contextualisez votre réponse, non pas pour vous justifier, mais pour permettre à l'autre de comprendre votre réponse. Par exemple, si on vous propose, on vous demande de sortir au cinéma et que vous êtes claqué, eh bien, vous allez avoir envie de répondre non. Et dans ce cas-là, précisez que c'est le cinéma qui ne vous fait pas envie. Et si vous êtes vraiment claqué et que vous n'avez plus de jus, eh ben vous pouvez le dire. L'autre comprendra que ce n'est pas lui qui rentre en jeu dans cette histoire et dans votre réponse, mais que c'est votre état actuel. Et lorsque vous recevez un nom comme réponse à votre question ou à votre demande, ne présupposez pas que ce nom est adressé à vous en tant que personne. Ce n'est pas un rejet de ce que vous êtes, mais seulement de ce que vous demandez. Et ça, je vous le dis, c'est pas grave, vous allez survivre.
Très bien, très bien. On peut dire non, donc c'est pas fatal.
On peut. C'est même conseillé parfois.
Très bien. Merci beaucoup, coach, pour ce conseil.
Salut mes louloutes, salut gamin.
À la semaine prochaine. À tout
bientôt. À la semaine prochaine.
Ensemble sur Calade.
Allez, quelqu'un qui dit beaucoup non, en tout cas dans sa chanson, c'est Amy Winehouse avec le titre Rehab.
I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Brad. I gained about 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me.
Un peu plus de 15 ans, ce titre, c'était Rehab de Amy Winehouse, extrait de l'album Back to Black, qui est sorti en 2006.
Ensemble sur Calade,
l'humeur littéraire du libraire.
Allez, il est l'heure de retrouver le libraire, c'est Bertrand Lamure qui est avec nous. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, nous sommes à J-moins quelque chose de la fête des mères.
Eh oui, effectivement. J-moins oui. quelque chose.
Et donc, je me suis dit, eh ben, et pourquoi pas un livre ou un album, hein, ça changera du parfum qu'elles ne vont pas apprécier, des fleurs bah, qui vont se sécher en deux jours, vu la chaleur, ouais. et le chocolat, bah, c'est raisonnable. Donc, un livre. Alors, j'ai fait une petite sélection en me disant, tiens, qu'est-ce que on pourrait offrir à ces chères mamans. Alors, je vais commencer par un livre qui est assez... qui est assez classique, on va dire, qui est une collection qui avait été faite par Laure Adler, et c'est sur les femmes. Alors, on a eu les femmes qui lisent sont dangereuses, les femmes artistes également sont dangereuses, et là, on a les femmes qui écrivent sont dangereuses. Alors, c'est toujours de beaux albums, qui étaient des albums, effectivement, sur des femmes, avec tout un univers également de peinture. Et là, on a quelques très beaux portraits donc de femmes qui écrivent. Hein. Alors, bien sûr, on a en tête au 19e une certaine George Sand, mais ça peut être aussi la première académicienne, hein, Marguerite Yourcenar, la rebelle devant l'éternel, Simone de Beauvoir, etc., etc. C'est un joli cadeau à offrir parce que l'album est beau.
Ouais.
Et ça me fait penser à un autre de Laure Adler aussi qu'elle avait mis en avant, qui était Les Matriarches, qui était aussi un très bel album, enfin qui est, pardon, un très bel album sur les femmes et des groupes de femmes, des communautés de femmes, des peuples, entre guillemets, où les femmes ont le pouvoir. Il n'y en a pas beaucoup sur la planète, hein, mais c'est un album aussi photo en particulier qui est très très beau à offrir. Voilà. Alors après, est-ce que vous souhaitez que votre maman soit la matriarche ou pas? Ça, je vous laisse voir. On part sur un univers beaucoup plus doux, avec, et je crois qu'il y a un certain temps que je n'ai pas parlé de Aki Shimazaki, ce qui est un problème. Alors Aki Shimazaki, pour ceux qui se souviennent, c'est une auteure japonaise, mais qui vit à Montréal, donc qui écrit en français. Ses titres, c'est toujours, il y a la douceur du Japon, mais il y a aussi le revers. Le Japon peut être très doux, mais peut être très violent, hein. Ambiance kamikaze. Et Aki Shimazaki fait des cycles de 5 petits livres à chaque fois. Et dans ces 5 livres, on suit un personnage que la fois d'après, on va voir de manière très fugace. Et c'est un autre personnage de l'univers du premier roman, entre guillemets, qui fait surface. Donc, on peut les lire dans n'importe quel ordre. Ce qui compte, c'est évidemment la beauté de la langue, l'univers très doux et toujours une petite claque quand même pour finir. Mmh. Donc, elle vient de sortir son dernier, qui s'appelle No No Yuri. Et pour les plus assidus, c'est un nouveau cycle qui avait commencé avec Suzurane et Sénis. C'est très beau, j'encourage vraiment tout le monde à lire Shimazaki. Elle avait commencé avec un cycle qui s'appelait Le Poids des Secrets, un deuxième qui était au cœur du Yamato, il y avait eu À l'ombre du chardon, et on a attaqué donc le quatrième cycle. Et mystère, nous ne savons encore pas le titre du cycle en entier.
Et à la fin, quand le cinquième livre sort, il y a une révélation, tout s'imbrique, c'est ça?
Non, pas du tout, Mathieu.
Ah,
non. C'est pas Lucinda Riley ou...
je ne sais pas.
Non, en fait, il y en a 5 parce que c'est, je sais pas, on va dire, c'est le côté psychorigide japonais.
Ça marche bien, me moque.
Ouais. Okay. Mais en fait, non, c'est... Voilà, moi, je ne les ai jamais lus dans l'ordre.
Ouais.
Et en fait, c'est vraiment, dans ces 5, quoi qu'il a dit, on retrouve les personnages, mais de manière parfois centrale, ou alors totalement fugace. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment un début, une fin.
Okay.
Il y a un univers.
D'accord.
Et c'est ce qui est très beau chez Aki Shimazaki.
Très bien.
Toujours dans un univers assez doux, quelqu'un qui, pour les moins jeunes d'entre nous, Irène Frein. Alors Irène Frein, ça fait partie de ces écrivaines qu'on a beaucoup connues au XXe siècle. donc autant dire qu'il y a quelques temps. Donc beaucoup se rappellent le nabab. Alors moi je me rappelle, j'étais gamin quand je lisais ça, parce que ma mère adorait Irène Frein. Et le nabab, c'était vraiment voilà, roman d'aventure, etc. Voilà. Alors après, il y en a eu beaucoup. Hein. Elle avait eu le prix Interallié l'an dernier pour Un crime sans importance. Et alors là, on part dans un univers qui lui ressemble bien, c'est-à-dire qu'il y a un côté femme déjà, hein, de très beaux portraits de femmes. Et puis alors là, on part très loin, on part au 19e siècle, quand un marin revient au port, dans un port californien, avec une femme qui a vécu en solitaire sur une île pendant 18 ans. Et elle revient, et cette femme, on sait plus bien qui c'est, si ce n'est qu'en fait cette femme a une joie de vivre. On se dit mais d'où elle vient pour avoir cette joie de vivre et ce bonheur qui l'habite. C'est un joli roman d'aventure, un joli roman de femme, donc à offrir encore une fois.
L'allégresse de la femme solitaire.
L'allégresse de la femme solitaire, c'est aux éditions du Seuil. Et donc, c'est notre fameuse Irène Frein. Toujours, si je continue un peu en douceur.
Oui.
J'en ai déjà parlé, mais comme ça fait partie des coups de cœur éternels, je continue. C'est Gioconda. Donc, Gioconda, c'est de Nikos Kokantzis. C'est un livre qui a été écrit il y a plus de 40 ans. Ça se passe à Thessalonique en 1942. Et c'est la première histoire d'amour entre Gioconda et son voisin. Ça va pas durer énormément parce qu'on ne sait pas pourquoi un jour Gioconda part, on n'en sait rien. Et c'est cette première histoire d'amour. Alors c'est très beau, c'est très tendre, c'est très sensuel, c'est absolument magnifique. Alors quand même un peu de poésie, hein. Moi je peux pas m'empêcher de mettre un peu de poésie à droite à gauche. Je voulais surtout parler de Bérangère Cournu. Alors Bérangère Cournu, je vous en ai déjà parlé pour l'écrivaine qu'elle est, entre autres pour son dernier livre qui était de Pierre Edos, autour d'une jeune fille perdue dans les glaces du Grand Nord. Et là, pour la première fois, Bérangère Cournu revient avec un recueil de poésie qui s'appelle Élise sur les chemins. Et donc c'est ici une poésie très douce, très en lien avec la nature. C'est vraiment voilà, je trouve qu'en cadeau pour de fête des mères, c'est un très très beau cadeau à offrir, parce que vraiment là il y a une très belle évasion. Il est beaucoup question effectivement aussi de femmes dans ce recueil. Alors, parlons de femmes. Là, attention, ça rigole plus. Liberté, égalité, fraternité.
Okay.
Donc déjà, ça calme.
Ouais.
C'est justement ce que pensent de cette liberté, de cette égalité, de cette fraternité, trois femmes. Alors, j'allais dire trois femmes puissantes, quelque part, pour reprendre un titre des livres de Léa Salamé. C'est Michel Perrault. Alors Michel Perrault, c'est pour moi c'est extraordinaire. C'est une des grandes historiennes du XXe et du XXIe siècle. Alors elle n'est plus toute jeune, mais j'allais dire c'est ridicule de dire ça parce que elle a encore aujourd'hui, mais surtout derrière elle, elle a cette carrière absolument extraordinaire d'histoire des femmes. Elle avait fait, moi je me rappelle il y a quelques années, une histoire de la chambre à coucher. C'était
d'accord.
Elle est accompagnée par Mona Ozouf. Alors Mona Ozouf, autre très grande dame, historienne également, principalement spécialisée sur la Révolution française, sur l'histoire de l'école, voilà, contemporaine de Michel Perrault, superbe. Et Cynthia Fleury, bien plus jeune, qui elle est psychanalyste, et toutes trois on réfléchit sur cette devise et ça nous donne vraiment un texte. C'est publié à l'Aube et surtout dans la collection Le 1, donc la fameuse collection et la fameuse revue d'Éric Fotorino. Et c'est vraiment un texte qui donne à réfléchir, et je trouve ça tellement extraordinaire qu'Éric Fotorino ait mis ces trois femmes en interaction que bravo. Et pour terminer, pour les petits, avec un très très bel album. Alors c'est un album qui n'est pas récent, hein, mais que nous on adore proposer, et en particulier à cette période de l'année, c'est Maman. C'est un album qui est chez Mijad, et qui est un album de Hélène Delforge et de Quentin Gréban. Et dans cet album, donc cet album c'est à la fois peinture et texte, et ben on a un portrait de toutes les mamans du monde. Et alors là, c'est absolument magnifique, effectivement, de trouver page par page des mamans. Alors ça peut être une maman africaine, ça peut être une maman tzigane, ça peut être une maman américaine, péruvienne. Les textes sont absolument magnifiques. Et on, voilà, à offrir, c'est, alors souvent nous aussi on le propose pour les naissances, mais quand même pour toutes les mamans, c'est très chouette. Et ils ont même fait récemment un carnet. Alors un carnet évidemment pour écrire, pour dessiner, avec cette très belle couverture de maman.
Super.
Alors j'ai presque envie de dire qu'avec ça, si les mamans ne sont pas gâtées, moi je n'y comprends plus grand chose.
Il y aura un souci. Merci beaucoup Bertrand pour cette sélection.
Et ben avec plaisir. Et puis bonne semaine et bonne fête à toutes les mamans.
Très bonne semaine. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao ciao.
Alors.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah c'est la fin de notre émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous la retrouverez en réécoute sur radio-calade.fr et en rediffusion demain matin à 10h. Rendez-vous demain à 12h12 pour le dernier numéro de la semaine, puisqu'on va faire le pont. Il n'y aura pas d'émission jeudi et vendredi. Voilà, puis d'ici là, prenez bien soin de vous.